Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'Argentine. Regard sur la troisième économie d'Amérique latine à quelques jours de l'élection présidentielle du 25 octobre. Un scrutin qui va indéniablement marquer une rupture après 12 années de kirchnérisme, du nom des présidences successives du couple Kirchner. Le favori Daniel Scioli promet un changement partiel de politique. Le conservateur Mauricio Macri, une rupture radicale. Sergio Massa, péroniste dissident, se situe quant à lui loin derrière. Nouvelle donne en vue en Argentine avec cette interrogation. Le successeur de Cristina Kirchner va-t-il rejouer les 12 années de confrontation ou va-t-il chercher à améliorer l'image de l'Argentine auprès des investisseurs et créanciers internationaux? Le futur président de l'Argentine ne bénéficiera pas, quoi qu'il en soit, d'aussi bonnes conditions économiques que celles qui ont profité à Cristina Kirchner grâce au prix élevé des produits agricoles. Nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France Isère à Grenoble, Célia Himmelfarb, économiste, directrice du Master Amérique Latine à Sciences Po Grenoble. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
À Paris, Georges Coufignal, professeur émérite de sciences politiques, ancien directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Ventura, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
L'élection donc du 25 octobre se présente comme un combat entre les deux principales coalitions politiques du pays. À gauche, Daniel Scioli, l'actuel gouverneur de la province de Buenos Aires, qui dirige le parti péroniste officiel Front pour la Victoire, candidat de choix de Cristina Kirchner, la présidente sortante, et à droite, l'actuel maire de Buenos Aires, Mauricio Macri, à la tête d'une coalition rassemblant notamment des conservateurs et des sociodémocrates. Qu'est-ce que l'on peut dire des enjeux de ce scrutin politique d'abord? Nous parlerons bien sûr d'économie ensuite. Célia Himmelfarb.
Oui, c'est une élection très très importante parce qu'il y a déjà trois périodes où les Kirchner ont gouverné effectivement depuis 2003. C'est la première fois donc qu'il y aura peut-être une alternance. Et il y a trois candidats qui sont le plus important. Scioli, qui est le gouverneur de la province de Buenos Aires, qui a à peu près donc 40% de voix d'après les sondages. Et ensuite, Mauricio Macri, actuel maire de la ville de Buenos Aires. Et ensuite, Massa, qui est le maire de la ville de Tigre. Monsieur Macri a des intentions de vote de 30% et Monsieur Massa, 20%.
Christophe Ventura, vous revenez d'Argentine.
Oui.
La campagne s'inscrit comment dans le paysage argentin
Sur le strict plan politique, la question pour l'élection, c'est de savoir s'il y aura un deuxième tour ou pas. Déjà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Parce que l'organisation, le mode de scrutin est assez spécifique. Il n'y a pas de deuxième tour si un candidat rassemble 45% des voix au premier tour, ou bien s'il a 40%, mais 10 points d'avance sur son second. Dans ce cas-là, il n'y a pas de second tour. Si on n'est pas en cette configuration, il y a ce qu'ils appellent un ballotage. C'est en fait un second tour. Il semble qu'effectivement, Monsieur Scioli, aujourd'hui, soit autour des 40 et un peu plus, peut-être avec la possibilité de faire ce trou de 10 points. Donc on est plutôt dans une configuration où M. Scioli gagnerait dès le premier tour. Si d'aventure un second tour était organisé, les choses seraient peut-être plus compliquées parce qu'il y a actuellement des tractations et des négociations entre messieurs Macri et Massa, précisément, qui essayent de trouver un terrain d'entente pour s'allier finalement et peut-être organiser une majorité au deuxième tour qui pourrait déstabiliser le candidat issu du Kirchner. Mais le cas de figure le plus probable, c'est plutôt le premier, c'est que M. Scioli l'emporte peut-être avec la configuration à plus de 40 et 10 points sur le second. Alors l'enjeu de la campagne, bien moi j'ai trouvé que c'est une campagne qui finalement s'inscrit plutôt dans un nuancier que dans des ruptures radicales. Il y a quand même une hégémonie, moi je dirais, du bilan kirchneriste, surtout en matière économique, en matière d'engagement auprès d'un soutien aux politiques sociales qui ont été menées depuis 2003, avec une différence surtout sur des engagements par rapport à la gestion du gouvernement. Les thèmes de campagne, c'est plutôt les questions liées à l'usure du pouvoir, liées à la question de la corruption, liées à la question aussi de la sécurité. Hein, c'est plutôt ces thématiques-là qui me semblent organiser cette campagne électorale. C'est pas un projet économique différent. C'est pas la remise en cause, si vous voulez, de ce qui a été fait depuis 12 ans, en particulier auprès des secteurs les plus fragiles de la société. il faut bien comprendre que ce cycle de 12 ans qui s'achève, c'est celui d'une Grèce qui a été mise à genoux après la crise de 2001 et qui avait crise de la dette, qui avait quand même jeté la moitié de la population sous la ligne de pauvreté, qui avait fait monter le chômage à plus d'un tiers de la population. Et le bilan des 12 ans là-dessus est un bilan qui est quand même assez intéressant, puisque le chômage, lui, a baissé à 7%, etc., etc., on y reviendra. Et donc, il y a quand même, je pense, un attachement, ou en tout cas un consensus dans la société argentine pour que cette orientation de l'organisation de la société perdure.
Alors, pas de projet économique différent, il n'empêche que la conjoncture et l'environnement international économique, nous en parlerons bien sûr, est évidemment très différent de ce qui a prévalu durant les années Kirchner. Sur les enjeux politiques, Georges Coufignal, de ce scrutin à venir le 25 octobre.
Moi, je crois que le principal enjeu, et pardonnez de peut-être être un peu en désaccord avec votre présentation tout à l'heure, quand vous parliez de Scioli, candidat de la gauche, Scioli est un ancien ministre de Menem, il fut effectivement vice-président de Kirchner, mais...
Le mari, Néstor Kirchner
de Néstor Kirchner, mais... Scholli est un néolibéral. Et ce qui me frappe dans cette campagne, c'est que on a, à mon sens, le balancier politique est en train d'aller à droite. Les trois candidats sont des candidats plus ou moins de droite, de centre-droit ou de droite dure, comme peut l'être Macri. Et ça, c'est une des caractéristiques du péronisme, qui est que on va de l'extrême gauche à l'extrême droite sans rien. Alors, est-ce que c'est vrai que dans la campagne, et je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, la campagne, c'est la sécurité, la corruption, etc. Sur les programmes économiques, moi, je crois que on est à la fin d'un cycle, à mon sens. C'est-à-dire qu'on a eu un cycle de keynésianisme fort, d'intervention de l'État, aussi bien Néstor que Cristina Kirchner. Il y a eu renationalisation d'un certain nombre d'entreprises qui avaient été privatisées par Menem. Il y a eu les politiques sociales dont vous venez de parler, que personne ne remet en cause, mais personne ne le remet en cause dans toute l'Amérique latine.
Politique sociale, on peut peut-être passer quelques instants dessus. Oui. Une très grande générosité de l'État argentin qui a bénéficié effectivement de prix de produits agricoles à l'exportation et qui ont rempli les caisses. Ce sont des allocations familiales, ce sont des indemnités retraite. C'est tout cela, Georges Coufignal.
Oui, cela est vrai, mais ça n'est pas spécifique à l'Argentine. Dans les années 2000, les politiques sociales, il y en a eu partout, très généreuses, la fameuse Bolsa Familia de Lula, etc.
Au Brésil.
Il y a eu l'allocation pour l'enfant, unique pour l'enfant, mis en place par Cristina. Il y a eu des avancées sociétales considérables, le mariage homosexuel, le droit à l'avortement, on trouve pas ça dans d'autres pays d'Amérique latine. Mais, encore une fois, sur le terrain économique, on est dans une politique d'intervention de l'État. Mmh. Et moi, je suis fortement, et je voudrais avoir l'avis de l'économiste Célia là-dessus, je pense que, quels que soient les candidats, les trois se situent plutôt dans une option néolibérale et peut-être obligés par cette fameuse histoire des fonds vautours qui fait que les investisseurs étrangers ne viennent plus
en Argentine
et que c'est la première chose que le nouvel élu, quel qu'il soit, aura à gérer, s'il est élu dès le premier tour, aura à gérer d'ici la fin du mois.
Alors, je me soumets au souhait de Georges Coufignal, de Célia Imelfarb, un commentaire sur cette orientation néolibérale des trois candidats à l'élection présidentielle.
D'abord, je vais m'exprimer sur que j'adhère à ce que Georges vient de dire concernant que Scioli n'est pas un candidat de gauche, c'est-à-dire que il faut connaître son parcours, et c'était un homme de Carlos Menem, il faut dire les choses, appelons à
Carlos
charge.
Menem qui a été donc président dans les années 1990.
Entre 1989 jusqu'en 1999, 10 années de Carlos Menem. Sur la partie économique, il y a quelque chose qui est extrêmement important, et c'est la fin d'un modèle, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période, comme vous disiez, un peu des vaches grasses et des fastes économiques, mais attention, entre 2003 et 2008, bien entendu, le bilan des Kirchner était très positif. Néstor, et je sépare toujours je vais séparer entre ce qui était les mandats de Néstor Kirchner et les mandats de Cristina Fernández de Kirchner. Pendant les 8 ans de Kirchner, il y a eu effectivement une réduction de la pauvreté de 57% de la population à 27%. 30 points, c'est énorme. Une grande développement, bien sûr, de ce qu'on venait de dire, des programmes sociaux, une renégociation de la dette extérieure extrêmement importante à partir de 2005, et une renégociation avec 93% des fonds, des pensions internationaux. Sauf 7% sont restés dans la non-négociation. On reviendra justement sur le problème des fonds de vautours et la négociation avec, ou pas, avec les fonds de vautours. Donc Kirchner a eu une croissance, comme on appelait à la chinoise, 7-8% donc par an, jusqu'à 2008-2009, et la crise des subprimes est passée. Mais ce qui est passé aussi, c'est une nouvelle gouvernance économique et politique avec Cristina de Kirchner, où il y aura la crise du campo, où il y aura une décroissance. L'Argentine est presque en récession. On calcule que cette année, peut-être, le PIB va être négatif. Et pour l'année prochaine, le Fonds monétaire international estime à moins 0,5%, ou autour d'une croissance très négative et 0,5%. Vous voyez, ce n'est pas une croissance des 7-8% comme Néstor Kirchner, où nous avons connu. Donc, fin d'un cycle économique, fin d'un keynésianisme, et Georges Coffinal avait raison, dans le sens que c'est la fin d'une politique de la demande, vous voyez. Et les candidats des CIO, ils disent, c'est fini la consommation, maintenant on va penser à l'investissement. Et donc, c'est un positionnement complètement différent, que le pays ne sera pas relancé par la consommation des ménages, va être relancé par l'investissement, et peut-être et probablement l'investissement international. Concernant la partie économique des trois candidats, il y a des points de convergence extrêmement importants. Et qui ce soit Scioli, que ce soit Macri, l'équipe de Macri, l'équipe de Massa, concernant la réduction entre le dollar officiel et les dollars parallèles. C'est très important, c'est un point commun. Et tous les trois sont d'accord que la manière dont on a une économie administrée du dollar ne marche pas. Deuxième thème, c'est les tarifs publics, les subventions et la répercussion dans les finances publiques. Et tous les trois, il y a un point de convergence aussi, c'est de faire des subventions toujours pour les secteurs les plus modestes, mais arrêter les subventions pour les secteurs les plus favorisés. Concernant aussi comment reconquérir l'investissement, tous les trois sont d'accord aussi, une convergence par rapport à une négociation avec les fonds vautours. De la même manière, à l'instar qu'on a négocié avec Repsol, l'Espagne, qu'on a payé 7 milliards de dollars, et aussi à l'instar des négociations avec le Club de Paris. Donc convergence aussi qu'il faut sortir de l'affaire du fonds vautours et que l'Argentine revient dans les négociations et emprunter dans les marchés internationaux.
On reviendra, on approfondira la question des fonds vautours, si vous permettez, Salia Imelfarb.
Absolument.
Alors, quant à la question des subventions, elles sont amoindries aussi, et on ne l'a pas encore évoqué, par une inflation assez forte. Hein, en ce qui concerne l'Argentine,
bien
on
sûr,
parle de 30% par an. Christophe Ventura, je me tourne vers vous. La réduction de la pauvreté évoquée à l'instant par Celia Imelfarb de façon assez massive, elle se voit, cette réduction de la pauvreté en Argentine aujourd'hui ?
Oui, elle se voit, puisque, encore une fois, je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'on parle d'un pays qui a connu une crise majeure en 2001. Je vous disais tout à l'heure, qui a jeté la moitié de la population, 40 millions d'habitants, sous la ligne de pauvreté. Une explosion des inégalités faramineuse dont on n'a pas idée. Le bilan au bout de 10 ans là-dessus, c'est que cette pauvreté a été largement résorbée. Le chômage est passé d'un tiers de la population à 7%. Ce sont 5-6 millions d'emplois qui ont été créés dans le secteur formel. Donc derrière ça, des salaires, de la consommation, des tissus familiaux et territoriaux qui se renforcent. Ça a été aussi la création de 250 000 entreprises, toutes petites entreprises et PME, les 12 ans qui viennent de s'écouler. Les Kirchner laisse aussi un des pays les moins endettés au monde, on va en reparler. Donc ça, pour le futur président, ça va être quand même un avantage assez certain. Oui, la réponse à votre question, c'est ça se voit, là-dessus il n'y a pas de doute, en termes d'éducation, en termes d'accès aux besoins fondamentaux, tous les IDH, les indices de développement humain sont largement à la hausse. Donc oui, il suffit de parcourir un peu le pays pour se rendre compte que la situation économique va mieux, aussi bien pour les classes les plus défavorisées, qui sont, disons, l'électorat, les secteurs sociaux, la base électorale du kirchnerisme, on va dire, ou du péronisme plus largement, ces secteurs-là, oui, et puis aussi, disons, ces classes moyennes un peu consommatrices qui aujourd'hui, effectivement, vont beaucoup mieux. Je voulais juste dire un mot sur Scioli, parce que c'est vrai que Scioli représente une autre composante hein, dans la diversité kirchneriste. C'est vrai qu'à mon sens, il représente, disons, le pôle le plus libéral, Georges Couffin a parfaitement raison, au sein de l'alliance, disons, kirchneriste. Et je pense que ça correspond à une demande de modération, en fait, hein, de certains secteurs qui votent, du secteur aussi économique, qui soutiennent le kirchnerisme, de modération dans la dépense publique, dans un moment, effectivement, de crise internationale économique fort qui impacte l'Argentine, comme tous les autres pays de la région. Et donc, c'est autour de ça que s'est noué, en réalité, à mon sens, eh bien, le choix de M. Scioli comme candidat de la coalition.
Alors justement, sur M. Scioli, quelques mots. Quand on parle de fin du kirchnerisme après 12 années en Argentine, la question se pose, on le dit, l'homme de Cristina Kirchner, Georges Coufignal. Donc finalement, s'il est élu, peu de chances qu'il y ait une rupture dans le paysage politique et économique argentin.
En termes politiques, l'homme de, ça ne veut pas dire qu'il est le suiviste de. J'ai du mal à répondre à votre interrogation, car c'est pure spéculation. Que fera-t-il ? Ce qui est certain, et ça vient d'être confirmé par les deux interventions qui m'ont précédé, c'est quelqu'un qui est dans une logique néolibérale. C'est quelqu'un qui va mettre fin à une politique d'intervention forte de l'État. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'Argentine, que l'on observe actuellement dans la plupart des pays d'Amérique latine, y compris dans ceux qui continuent à avoir des chefs d'État de clairement marqués à gauche. Hein. Aujourd'hui, le Brésil, avec Dilma Rousseff, mène une politique qui n'est pas du tout celle que menait Lula auparavant. Pour reprendre le mot de Célia, c'est un cycle, la fin d'un cycle probable en Argentine, mais qui s'inscrit dans la fin d'un cycle qui est beaucoup plus global dans l'ensemble de l'Amérique latine. Et il y a un point, moi, sur lequel il faut insister, qui est propre à l'Argentine. C'est la situation économique invraisemblable qui est faite par rapport à cette question des fonds vautours. C'est vrai, vous venez de dire que c'est l'un des pays les moins endettés au monde, et c'est quelque chose d'assez remarquable. Après la crise de 2001, souvenons-nous, l'Argentine en 2005 rembourse par anticipation l'argent qu'elle devait au FMI. C'est-à-dire que il y a une renégociation de la dette. Et sur ce, il y a deux fonds vautours des États-Unis avec un homme proche de 90 ans, le juge Thomas Griesa, qui dit « pas question, il faut rembourser ». Or, l'accord de renégociation de la dette était, avec les créanciers du Club de Paris, si l'Argentine accepte de payer de manière non renégociée à d'autres fonds, tous vont venir. Donc on est actuellement dans une situation incroyable, c'est-à-dire que l'Argentine paye ses créanciers, met l'argent sur un compte que Griesa a bloqué, et ce pays qui est bien géré, qui a été bien géré économiquement, est actuellement prisonnier de fonds privés. Alors, l'Argentine s'est adressée au Conseil à la Cour suprême nord-américaine pour essayer de débloquer. Et la Cour suprême n'a pas voulu trancher, et Obama n'ose pas intervenir là-dedans parce que ces fonds vautours sont liés à des fractions du Parti républicain. Donc, on a un pays qui est prisonnier de la finance internationale la plus odieuse. Et je crois que ça, c'est dramatique.
Alors, ce que j'entends, et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, c'est que finalement, Cristina Kirchner, avec une politique péroniste ou pas, en tout cas plutôt à gauche, et on reviendra sur le péronisme, est victime des républicains à Washington. C'est cela que j'entends d'une certaine manière, Georges Coufignal. On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Célia Himmelfarb, Georges Coufignal et Christophe Ventura dans quelques instants. À tout de suite.
Appel. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Argentine. Nous retrouvons nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France Isère à Grenoble. Célia Emel-Farm, économiste et directrice du Master Amérique Latine à Sciences Po Grenoble. À Paris, Georges Coufignal, professeur émérite de sciences politiques et ancien directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique Latine. Et Christophe Ventura, chercheur associé à l'IRIS. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur une question plutôt économique, la question des fonds vautours. Célia Emel-Farm, qui va être le grand dossier à gérer pour le successeur de Cristina Kirchner, dont l'élection est prévue le 25 octobre.
D'abord, je voudrais signaler deux petites choses. C'est que, bien qu'il y ait une réduction de la pauvreté pendant la période de Néstor Kirchner, depuis l'année 2012, il y a une croissance de la pauvreté en Argentine, indéniable. Et que un tiers de la population est en travail informel. Et étant donné aussi qu'il y a eu 30% d'inflation, des pans complets de la population sont restés à l'extérieur de la consommation. Parce que les retraites ni les salaires ont été indexés à l'auteur de l'inflation. Concernant les fonds vautours, Marie-France, il y a quelque chose de très important. Cela concerne 7% de l'ensemble de la dette. Le 30 juillet 2014, l'Argentine est rentrée en défaut partiel à cause de cette histoire des fonds vautours et du jugement du juge Gries aux États-Unis. Par la suite, il y avait aussi la clause Ruffo qui est arrivée à terme le 31 décembre 2014. La clause Ruffo était très importante parce que si on appliquait la clause Ruffo, l'Argentine devait payer à tous les autres créanciers aussi. Vous voyez, pas que 7%, à 100% des créanciers. Bon, celle-là maintenant n'est plus en vigueur, mais c'est seulement le 7%. C'est le fonds vautour de Paul Singer qui est le plus compliqué à négocier, à pouvoir trouver une solution. Mais je disais tout à l'heure qu'il y a une convergence des trois candidats plausibles donc à la présidence de la République argentine, qui est tous les trois, d'une manière ou d'une autre, avec des séquences différentes, avec un certain gradualisme ou avec d'une manière beaucoup plus rapide, proposent la renégociation avec les fonds vautours. Ainsi, j'ai expliqué que l'Argentine, je ne pense pas qu'il dépend à l'heure actuelle des républicains américains. C'est sûr que Paul Singer est lié au Parti républicain américain, mais il ne s'agit pas d'indépendance. Si je dirais qu'à l'heure actuelle, l'Argentine dépend politiquement, c'est plutôt de la Russie ou de la Chine, au niveau politique et au niveau économique. Et c'est un thème de la relation de l'Argentine avec le contexte international qui a évolué beaucoup. Et je pense que les trois candidats vont imposer une politique extérieure très différente de celle suivie par Cristina Kirchner.
Alors, ce sera intéressant, évidemment, de l'évoquer. En tout cas, ce que je vois aussi parmi les priorités, et je parle sous votre contrôle, Célia Emel-Farm et Georges Coufignal, c'est une dévaluation du peso. Célia Emel-Farm évoquait la reprise de la pauvreté depuis 2013. Il faut dire que l'Argentine a connu des années de croissance portées par les exportations agricoles, que donc la machine s'est grippée fin 2013, quand les prix des matières premières agricoles ont commencé à chuter, et que l'économie du Brésil, premier partenaire commercial de l'Argentine, s'est mise à fléchir. Donc il est évident que pour le successeur de Cristina Kirchner, la situation économique pour l'Argentine ne sera définitivement pas la même que celle des 12 années passées, Christophe Ventura.
Oui, certainement, mais c'est vrai que l'Argentine n'est qu'une illustration, un fragment d'une réalité qui concerne l'ensemble de la région. Le retournement de cycle économique, il a eu lieu effectivement en 2013 avec la chute de la demande mondiale et des cours des matières premières. Toutes les économies latino-américaines depuis 1492 à peu près sont des économies extraverties qui produisent des matières premières pour les pays du centre de l'économie mondiale, c'est-à-dire nous. Bien évidemment, c'est une dépendance récurrente et qui s'inscrit dans l'histoire longue, et l'Argentine connaît les problèmes qui sont liés à ce statut dans la division internationale de l'économie. Ça concerne tous les pays. C'est vrai que la pauvreté a repris un peu depuis 2012, mais un peu d'ailleurs comme dans tous les autres pays latino-américains, il y a effectivement une stagnation de la baisse de la pauvreté, etc. Maintenant, moi je serais moins déterministe, disons, sur l'avenir. Je pense que c'est plus ouvert parce que l'Argentine de 2015 n'est pas l'Argentine de 2003, on l'a vu dans la première partie de l'émission. Et je reviens aussi sur cette affaire d'endettement parce qu'elle est quand même centrale. Je veux dire, encore récemment, l'Argentine vient de payer 6 milliards de dollars pour une série de bons qui avaient été, de titres de la dette publique qui avaient été mis au milieu des années 2000. L'affaire Griezza est tout à fait ubuesque, hein, puisque je rappelle quand même que les fonds dont on parle sont pas du tout des fonds qui ont prêté un peso à l'Argentine, mais des fonds qui sont spécialisés dans le rachat d'autres fonds qui avaient acheté eux des titres et qui voulaient s'en séparer et qui rachètent ces titres de deuxième main en quelque sorte pour négocier avec des avocats et des juristes des failles dans les contrats qui leur permettent de se refaire la mise sur l'argent qu'ils n'ont pas prêté. Donc c'est quand même ça le fond de l'affaire. Une cour d'appel new-yorkaise vient de désavouer le juge Griezza très récemment, il faut le dire aussi, considérant que la sentence n'est pas acceptable. Bref, cette affaire-là est compliquée. Mais pour me résumer, je dirais que l'Argentine aujourd'hui a plusieurs atouts malgré tout. D'abord, elle s'est aussi un peu réindustrialisée depuis les années 2000. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de 250 000 créations d'entreprises, 250 000 entreprises TPE et PME, sur des filières assez limitées d'industrie, mais en particulier dans l'automobile, dans l'assemblage mécanique et dans les télécommunications. Ça n'existait pas il y a 10 ans en Argentine. Maintenant, l'enjeu, c'est effectivement de trouver des investissements qui permettent, sans faire appel aux marchés financiers qui sont interdits à l'Argentine sous peine de payer des taux d'intérêt délirants à plus de 15%, de pouvoir en quelque sorte autonomiser la production en Argentine et ne plus dépendre, lorsqu'ils font des usines Renault par exemple, de ne plus dépendre de la technologie et des financements de Renault maison mère. C'est ça l'enjeu aujourd'hui économique. Et je pense que, en tout cas, en Argentine, il ne faut pas sous-estimer la conscience qu'il y a sur les enjeux de cette industrialisation-là. Je crois qu'aujourd'hui, les autorités publiques sont très au fait de la nécessité d'aller vers ce modèle pour transiter et sortir précisément du modèle exclusivement matières premières, soja, maïs, etc. Et c'est vrai que les Chinois, dans cette affaire-là, vont jouer un rôle dans les années qui viennent. Et je ne crois pas que Scioli, contrairement à ce qui a été dit par ma collègue, je ne crois pas que Scioli va entrer dans une rupture de politique étrangère par rapport à ça. Je pense qu'au contraire, les Argentins comme les Latino-Américains ont compris les vertus de la diversification de leurs alliances dans un monde globalisé et que c'est ça qu'ils vont continuer à faire.
À propos de l'industrialisation, juste pour resituer les choses pour nos auditeurs, l'Argentine qui avait été le seul pays latino-américain à être présent parmi les 50 exportateurs les plus importants de produits manufacturés en 1980 a régressé de la 26e à la 37e place en 2009. Donc les choses reprennent. Georges Koufinial, je me tourne vers vous. On a parlé du kirchnerisme, après on parlera de la place de l'Argentine dans son environnement régional. Mais quelques mots tout de même sur le kirchnerisme et le péronisme. C'est quand même extraordinaire qu'on continue au jour d'aujourd'hui, en tout cas les hommes politiques et les femmes, enfin je veux dire la gente politique argentine continue de se référer à Perón qui a été au pouvoir en Argentine, on le rappelle juste entre 1946 et 1955 avec un retour en 1973. Tout le monde se réfère au péronisme, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite. Donc ça n'est plus un parti politique, c'est une sorte de marque qui est définitivement liée à l'Argentine. Aidez-nous à comprendre.
Je ne sais si j'arriverai à vous aider à comprendre, parce que je crois que c'est un des grands mystères de ce système politique, avec quand même quelques points qui permettent de comprendre. D'abord, premier point, historiquement, Perón a été un chef d'État qui a forger un sentiment national très fort. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. Deuxièmement, il a mis en place un système politique qui n'est pas unique. Le Parti révolutionnaire institutionnel au Mexique a aussi beaucoup de choses en commun. En particulier, le lien avec le syndicalisme. La CGT, qui a été créée comme syndicat unique, obligatoire, et où tout le monde était enrôlé, avec quelque chose qui était très très ouvert, mais très ouvert avec des points forts, comme par exemple la place de la femme. Très vite, au sein du péronisme, il y a eu un statut particulier, une reconnaissance de la condition féminine qui n'existait nulle part ailleurs en Amérique latine, et pas au Mexique, en tout cas, certainement pas. Donc, on a, avec cela, accepté une très très grande diversité idéologique à l'intérieur du mouvement. Et la seule force politique qui existait historiquement à côté du péronisme, qui étaient les radicaux, bon, ils ont gouverné un peu après la transition, mais ils n'ont jamais réussi à s'implanter de la même manière que le péronisme. Il faut savoir que, y compris dans les universités, on est péroniste ou non péroniste. On s'identifie par rapport à cela, en sachant que le mot péroniste, c'est une identification à quelqu'un qui a forgé un sentiment national. Mmh. Moi, j'aime pas du tout le mot kirchnerisme et l'isme qu'on attribue à des tas de chefs d'État, hein, le hollandisme, que sais-je. Non. Mais péronisme, oui, parce que Perón a été, je le répète, une figure absolument essentielle dans la constitution de l'identité argentine.
Mais alors, la question qui me vient, Georges Coufignal, à vous écouter, on est péroniste ou on n'est pas péroniste en Argentine, est-ce qu'on peut dès lors parler d'une société clivée ?
Oui, je crois. Le débat politique, depuis très très longtemps, il est entre péronistes et non-péronistes, sachant qu'à l'intérieur des péronistes, encore une fois, on va de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Célia Emel-Farm, je vous laisse aussi poursuivre la réflexion de Georges Coufignal étant vous-même argentine.
Le péronisme, c'est effectivement c'est un suicide, des définitions en quelque sorte. Je suis d'accord que ça marquait beaucoup l'histoire de l'Argentine, mais surtout marque l'histoire parce que Perón arrive au pouvoir en 1945, jusqu'en 1955, quand l'Argentine était très riche et avait les moyens de donner une protection sociale, éducation, etc. Donc ces moments historiques étaient passés. Et lorsque Perón assume le troisième mandat comme président de la République en 1973, et très peu de temps parce qu'il est décédé le 1er juillet 1974, l'Argentine n'était plus la même. Donc c'était très difficile de gouverner. Ça me fait penser un petit peu à l'Iran de Khomeini. Perón s'est servi un petit peu de l'aile gauche, si vous voulez, du péronisme pour arriver au pouvoir. Et il s'est servi par la suite de l'aile droite du pouvoir pour détruire cette option de gauche. Donc ça provoqué des violences extrêmes en Argentine en 1974-1975 avec la AAA et beaucoup d'assassinats, etc. Il ne faut pas oublier aussi. Donc, parler du péronisme au XXIe siècle, ce n'est pas pareil. Il y a une identification nationale et c'est sûr que la société argentine est très clivée. Les pour et les contre, etc. Bien sûr.
Christophe Ventura, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Après ça, j'aimerais, pour les minutes qui nous restent, qu'on aborde la question de la place de l'Argentine dans la région.
Internationale.
Non, je crois que sur le péronisme, on pourrait y passer des heures. Je crois qu'il faut se rappeler que le péronisme intervient après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la proposition, c'est un peu la troisième voie, finalement. C'est-à-dire ni fascisme, ni communisme. C'est l'idée d'une construction nationale qui dépasse les clivages entre le travail et le capital, à l'époque. Et c'est là où se niche à la fois sa composante de gauche, à la fois sa composante ambivalente, nationaliste et proto aussi fascisante, parce qu'il y a cette partie-là dans le discours fasciste aussi. Bon, voilà, on n'a pas le temps de développer, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on se dit péroniste en Argentine, c'est qu'on s'identifie au gouvernement et au parti politique, au Frente para la Victoria, le Front pour la Victoire aujourd'hui qui concourt. Bon, c'est cette idée d'une nation qui construit son développement et l'élévation du niveau de vie pour la majorité, en particulier les plus pauvres. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le sentiment commun autour du péronisme aujourd'hui actualisé.
Alors, quelques mots sur la place de l'Argentine dans la région. Georges Coufignal, je me tourne vers vous. La politique étrangère de Cristina Kirchner, la présidente menait des politiques plutôt assez radicales. Elle s'est rapprochée de l'Iran, rapprochée du Venezuela. Hugo Chavez a été son principal allié dans la région. Très proche aussi de Lula au Brésil. Qu'est-ce que l'on peut dire de la relation avec les États-Unis ? On est encore beaucoup en Amérique latine sur le registre de stratégie de rejet ou non de toute soumission aux intérêts de Washington. Qu'est-ce qu'il en est pour l'Argentine ?
Cristina Kirchner a été reçue à la Maison-Blanche et Obama lui a fait la bise. Je crois que l'Argentine, historiquement, a, Christophe Ventura le rappelait il y a un instant, a eu une politique étrangère indépendante. Ça a commencé sous Perón, le rapprochement avec l'URSS à l'époque. L'Argentine, historiquement, là aussi, n'a pas été dans la dépendance vis-à-vis des États-Unis en termes de politique étrangère, comme ont pu l'être beaucoup d'autres pays. Et je dirais que là, il y a eu quelque chose qui est de l'ordre de la continuité d'une nation qui cherche à s'affirmer sur la scène internationale. Ceci étant, le grand problème qu'il y a eu, c'est pas tant les relations avec Chavez, Lula aussi, n'a jamais voulu avoir la moindre divergence avec Chavez. Il ne le suivait pas dans son anti-américanisme un peu viscéral, pas plus d'ailleurs que ne le faisait Cristina Kirchner. Non, je crois que la grande question aujourd'hui, c'est celle du Mercosur, de l'UNASUR, et comment l'Argentine se situe dans ce type de recomposition économique en même temps que politique. Et il y a là de très grandes interrogations parce que on est rentré en particulier avec l'attirance de plus en plus forte du Pacifique, des pays asiatiques. On est rentré dans une zone, à mon avis, d'incertitude par rapport à la configuration des blocs sous-régionaux de l'Amérique latine, dont en particulier le Mercosur. Il faut rappeler que le Mercosur n'a jamais réussi, après 25 ans de négociations, de signer un accord avec l'Europe, parce qu'il y a en particulier la protection agricole française, en grande partie, mais aussi allemande, mais aussi qui fait qu'on ne veut pas recevoir tous les produits agricoles argentins gratis.
Alors, Mercosur, pour nos auditeurs, donc espace d'intégration qui rassemble le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, et l'UNASUR, créé de façon beaucoup plus récente, qui est l'Union des Nations Sud-Américaines. Et quand je parle de création plus récente, il s'agit d'une création qui remonte à 2008, alors que le Mercosur, de mémoire, je parle sous votre contrôle, Jean-Jacques Coffignal, 1991, c'était avant l'ANENA de 1994.
Il y a aussi le Venezuela dans le Mercosur maintenant.
Et le Venezuela dans le Mercosur, tout à fait. Donc une sorte d'incompatibilité, ou en tout cas, à défaut d'incompatibilité, en tout cas, difficulté à faire s'ordonner tous ces grands espaces d'intégration, Célia Humalfarb.
Oui, c'est-à-dire que les espaces, à l'heure actuelle, sont aussi eux-mêmes en crise, effectivement. Pour le Mercosur, le Brésil est en crise, et le Brésil est le bras moteur, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que si le Brésil est en crise, et l'Argentine aussi, je définis comme une crise économique et politique en Argentine, ça va être très difficile de recomposer. Aussi, comme disait Alain Roquier, le Brésil s'adresse aux semblables. Et les semblables, c'est la Chine, l'Inde et la Russie, vous voyez, l'Argentine n'est pas considérée comme un émergent pour le Brésil. Mais le Brésil est en crise, donc il y aura beaucoup de recomposition. Je signale aussi une déclaration de Macri. Le candidat demande, ici il est élu président, de convoquer le Mercosur pour faire appliquer la clause démocratique au Venezuela à cause de l'arrêt des prisonniers politiques de Leopoldo Gomez à Caracas. Donc c'est la première fois qu'on invoque que peut-être le Venezuela peut être poursuivi ou mis à l'écart du Mercosur dans le sens qu'elle n'applique pas la clause démocratique qui était inspirée bien sûr de la clause démocratique de l'Union européenne. Même par rapport au Mercosur, même le lien avec le Venezuela peut être modifié de la part de Scioli ou Macri ou Massa, vous voyez. Ça, c'est en ce qui concerne l'Amérique latine. En ce qui concerne l'extérieur, un grand point d'interrogation, c'est la renégociation avec la Chine d'un swap. Ça veut dire, c'est un prêt, un échange, donc des 10 milliards de dollars, et qu'ils attendent effectivement pour pouvoir respirer un peu. Parce que je veux signaler quelque chose, c'est que lorsque l'Argentine se désendette au niveau international, s'endette au niveau international. Ça veut dire que lorsqu'elle paye avant-hier presque 6 milliards de dollars d'une partie de la dette, tout de suite elle appelle à un appel des titres, donc de bons en interne. Donc c'est un équilibre toujours dette extérieure, dette intérieure. C'est pas parce que le ratio de la dette internationale est en train de diminuer que la dette interne est en train d'augmenter. Donc ça, il faut aussi le savoir. Et concernant l'Iran, récemment Interpol, il y a un mois et demi, a confirmer que les alertes rouges sont toujours en vigueur, toujours à l'ordre du jour pour 5 dignitaires iraniens à cause de l'attentat de la Amia en Argentine en 1994. Voilà.
Bien sûr, et un attentat sur lequel l'Argentine, la justice argentine se penche, et nous n'en avons pas parlé, c'est l'affaire d'Alberto Nisman, ce procureur argentin qui a été trouvé mort en janvier de cette année dans une enquête sur une possible implication donc de l'Iran dans cet attentat. C'est la fin de géopolitique, toujours trop court, mais merci à nos invités, Célia Humalfarb qui était en duplex depuis les studios de nos confrères de Radio France Isère à Grenoble, que nous remercions, Célia Humalfarb qui est économiste et directrice du master Amérique latine à Sciences Po Grenoble. Merci aussi à Georges Coffignal, professeur émérite de sciences politiques et ancien directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Christophe Ventura, chercheur associé à l'IRIS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.